bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nouvelle Voix. Je suis Xavier Malartre, le fondateur de Reconverso. Que ce soit Reconverso ou le podcast Nouvelle Voix, l'objectif est le même, c'est de vous aider à trouver une vie professionnelle qui correspond pleinement à vos attentes, notamment en termes de sens et d'équilibre. Sur le site reconverso.fr, vous allez retrouver différents contenus qui peuvent vous aider dans votre transition ou déjà dans vos envies de changement. Vous allez retrouver des articles, des guides, également des programmes en ligne et des accompagnements. Je vous mets le lien vers le site reconverso.fr dans les commentaires de l'épisode et je vous souhaite une très bonne écoute de ce nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est une interview. Je suis allé rencontrer Vincent Patrin. Vincent est le fondateur d'un espace de coworking à Lyon qui s'appelle La Permaculturelle, un espace de coworking qui se trouve en bordure de Saône, donc très agréable pour ceux qui connaissent les Lyonnaises et les Lyonnais. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter cet espace de coworking, on peut y passer une demi-journée, une journée de test un peu, et visiter le lieu avec Vincent Patrin. C'est un espace qui comprend un intérieur, un extérieur avec notamment des carrés potagers. Enfin, il y a tout l'esprit justement de la permaculture qui respire dans ce lieu, La Permaculturelle. Donc on va parler dans cet épisode avec Vincent de ce lieu de coworking. On va également parler de la permaéconomie, qui est également une vision de l'économie basée sur la permaculture. Et si la permaculture, ce n'est pas un terme qui est très clair pour vous, eh bien ça tombe bien, on en parle aussi dans cet épisode. On aura deux épisodes pour cette interview, parce qu'on avait pas mal de choses à se dire, vous allez le voir avec Vincent. Donc le premier épisode que vous allez découvrir aujourd'hui, on va justement se concentrer sur ce lieu de coworking, La Permaculturelle, sur la permaculture et la permaéconomie. Et dans le deuxième épisode, qui sortira en début de semaine prochaine, mardi prochain précisément, eh bien, nous parlerons du parcours de Vincent Patrin, puisque Vincent, avant de fonder cet espace de coworking, était journaliste, et vous verrez qu'il y a pas mal de choses aussi à nous dire sur l'évolution du métier de journaliste, et puis aussi sur comment eh bien, il est passé justement de responsable d'une équipe dans un quotidien régional à la fondation de ce lieu de coworking. Je vous laisse découvrir ce premier épisode et on découvrira ensemble le prochain épisode la semaine prochaine. C'est parti. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Merci beaucoup de m'accueillir dans ce très beau lieu, La Permaculturelle, qui est un lieu de coworking que tu as fondé. Est-ce que tu peux déjà nous présenter ce lieu ?
Oui, bien sûr. Ben, La Permaculturelle, c'est, on va dire, un coworking somme toute assez classique, hein, où on loue des espaces de travail, des postes de travail, des bureaux, mais avec une tonalité toute particulière qui est celle de dire, de créer un lieu le plus éco-responsable possible.
D'accord.
L'idée de base, c'était de vraiment à la base de la fondation du coworking, c'était de dire je vais pouvoir jardiner sur mon lieu de travail.
Ok.
Ensuite est venu le concept d'éco-responsabilité, et puis un peu plus tard celui de permaculture, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure.
Oui.
Mais à la base, en fait, l'idée c'était de moi je vis, j'essaye de vivre à mon domicile,
oui.
De la manière la plus éco-responsable possible. Voilà, donc ça passe par tout un tas de choses, ça va assez loin hein, dans ma démarche quotidienne. Et je me suis dit, mais attends, quand tu quittes ton foyer pour aller sur ton lieu de travail, tu abandonnes pas tes convictions écologistes.
Oui.
Donc il faut qu'elles te suivent, ou alors il faut trouver un lieu qui soit adapté à ces convictions, ou alors encore mieux, le créer.
Oui, d'accord.
Voilà.
Okay. Et donc c'est parti de là. C'est parti, ouais, de cette envie d'emmener quelque part tes convictions du domicile sur le lieu de travail.
Oui, parce qu'initialement, moi, j'étais journaliste et à la fin de ma carrière de journaliste, après ma reconversion, avant ma reconversion, j'étais responsable d'agence.
D'accord.
Donc, je dirigeais une petite agence dans le Jura.
Okay.
Et voilà. Et j'ai été confronté à ce point-là, c'est-à-dire que j'ai hérité de locaux, j'ai hérité d'une façon de faire le ménage, d'une façon de gérer les locaux. Très classique en fait,
ouais, d'accord.
Avec okay. Tous les outils classiques du bureau, hein, la fontaine à eau, la cafetière, le machin, tout ça, des trucs dans lesquels je me reconnaissais pas du tout, enfin je me reconnais bien dans la cafetière, mais voilà, il y avait pas mal de choses qui convenaient pas, et en fait je vivais pas la même réalité à la maison,
ouais,
que sur mon lieu de travail.
Je fais un zoom quand même sur ce que tu dis, parce que parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a peut-être qui sont déjà enfin, qui comprennent ce que tu veux dire quand tu parles de fontaine à eau, de machine à café, de produits ménagers, etc. Peut-être d'autres se disent, bah, qu'est-ce qui est gênant finalement dans une fontaine à eau, dans un produit ménager qui n'est pas un produit écologique en tout cas. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus, par exemple sur le ménage, qu'est-ce qui peut être problématique dans un ménage classique?
Ben, c'est une expérience que j'ai faite en tant que gestionnaire d'agence. Moi, il m'arrivait le matin. Alors, il y a une problématique sociale, sociétale, et il y a une problématique environnementale. C'est-à-dire que j'avais un bureau comme énormément de gens où on déléguait le service de ménage à une entreprise tierce. Du coup, qui déléguait ça à des personnes qui généralement, pour beaucoup, ne parlaient mal le français. Oui. C'était le cas. D'accord. Et travailler à des heures pas possibles, type 5 heures du matin avant que les gens arrivent, ou très tard le soir après que les gens partent. Ouais. Donc on les voyait pas. Hein. Vraiment la minorité invisible, hein, ils se plaignaient pas, on n'était pas leur employeur direct.
Oui, t'arrives le matin, t'as ton bureau tout propre, je sais pas qui l'a nettoyé, comment.
Exactement, exactement. Donc là, on se dit qu'est-ce qui se passe. Hein. Donc quand on commence à s'intéresser à ces personnes et quand on commence à les rencontrer, on se rend assez rapidement compte. Mmh. Que généralement leurs conditions de travail sont pas terribles, que leurs heures sont pas toujours très bien décomptées, les consignes qu'on leur donne sont pas toujours très claires, et que les produits aussi d'entretien qu'on leur confie sont souvent d'assez mauvaise qualité ou de piètre qualité.
Est-ce que tu peux nous dire du coup, par exemple sur cette problématique-là précise, toi, ce que tu as mis en place ici à la permaculturelle?
Voilà, ben déjà, le premier truc, c'est on n'emploie pas ce genre de personnes.
Ouais, d'accord.
Je fais le ménage moi-même.
D'accord, ok.
C'est aussi l'assurance de pouvoir conserver ses engagements en éco-responsabilité. Puis, il y a d'autres raisons qui font que je m'en occupe, on ne délègue pas à ce type de société, première chose. Deuxième chose, moi j'utilise mes trois ingrédients de base, c'est vraiment le vinaigre blanc, le savon noir et l'huile de coude. Quoi.
D'accord, l'huile de coude c'est toujours efficace.
Ouais, ça marche pas
ça
mal.
Ça marche bien.
Ça marche pas mal.
À 5h du matin aussi, ou du coup, tu peux le faire un peu plus tard?
Non, mais effectivement, pour le coup, ça m'arrive de revenir le week-end pour terminer, puisque le lieu est occupé tous les jours. Donc, c'est vrai que ça c'est une problématique. Ouais. Mais voilà, ce que j'accepte de m'imposer à moi-même, revenir le week-end de 3h, parfois, pour venir travailler. J'ai pas envie de l'imposer aux autres. Voilà, c'est une façon de voir les choses aussi.
D'accord, mais en tout cas, on voit que il y a vraiment dans ce lieu des valeurs qui sont fortes, des valeurs écologiques qui sont fortes. Et du coup, comment ça se vit aussi pour les coworkers, ces valeurs-là?
Ben, en fait, c'est assez transparent parce que j'ai une partie de mes clients qui viennent parce que ils savent que le lieu est véhicule des valeurs écologiques fortes.
Ouais.
Et j'ai des clients qui viennent parce que je suis pas loin de chez eux, parce que la déco est sympa, parce qu'il y a des espaces extérieurs, parce que j'ai un grand parking où ils peuvent garer leur voiture. Toutes les raisons sont bonnes.
Et oui,
de mauvaises raisons.
Parce que c'est vrai que je pense à la déco, les personnes qui nous écoutent ne voient pas la déco du coup, vu qu'on est sur un podcast sans vidéo, mais on a de pas mal de tu disais que tu aimes bien chiner notamment. Donc on retrouve des vieilles radios qui sont très belles d'ailleurs, des téléphones anciens, moi je suis assez fan des téléphones anciens, on en parlait juste avant l'interview. Donc on a beaucoup de beaux objets, très très beau mobilier aussi dans toutes les pièces du coworking, et du mobilier 100% récupération, et même du mobilier que tu fabriques toi-même pour une bonne partie.
Oui, alors ça c'était aussi ça c'est venu au fil du temps, mais ça s'est imposé assez rapidement. Au début, j'ai commencé à vouloir déléguer à des artisans cette tâche de construire du mobilier adapté au lieu pour pouvoir mettre entre guillemets pas le plus grand nombre de coworkers au mètre carré, mais créer un aménagement où les personnes puissent travailler de manière concomitante, mais sans se déranger les uns les autres. Voilà, c'était créer la bonne synergie. Et ça passe aussi par le design du lieu.
Oui.
Et du coup, en fait, au final, ça ne s'est pas très très bien passé avec les artisans pour des questions de prix souvent, des questions on s'entendait pas forcément nécessairement sur tous les points. Et puis j'ai commencé à me dire je vais créer une partie du mobilier moi-même.
D'accord.
Et au final aujourd'hui je crois que J'ai créé plus de 20 postes de travail ici.
Ah oui, d'accord.
Donc j'ai fabriqué plus de 20 bureaux.
Okay.
Bon, on a besoin aussi de chaises,
oui.
de desserts.
Oui.
Enfin, on ne va pas tout fabriquer soi-même. Oui. Donc on a besoin de mobilier de bureau et on se rend compte que du mobilier de bureau, il y en a plein nos déchetteries.
Oui.
Et que si on s'en donne un peu la peine, on peut en récupérer. Et au final, je crois, alors j'ai pas tout pesé, hein, mais. Je pense qu'en 2 ans, j'ai récupéré entre 7 et 8 tonnes de mobilier.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Ouais. Mais c'est vrai que pour remplir l'ensemble de coworking, 100%
ouais.
en récup,
ouais, ouais.
Ouais, forcément
ouais.
beaucoup, beaucoup de
donc
matos.
Ça, c'est, voilà. Donc ici, j'ai l'habitude de dire, c'est tout est récupéré,
oui.
tout est de seconde main, sauf ouais. ce que j'ai créé.
Ah, ok, il y a quand même des choses de première main.
Voilà.
Et je voulais revenir sur le nom du lieu,
oui.
La permaculturelle, du coup.
Oui.
Pourquoi ce nom?
Alors, du coup, comme je l'expliquais précédemment, l'idée de base était, mais vraiment initiale. Hein, l'idée initiale, c'était
oui.
de pouvoir jardiner sur son lieu de travail.
Oui. Oui.
Ensuite, j'ai quitté mon ancien emploi, donc j'étais journaliste et manager,
oui.
et je travaillais pour le Progrès, donc en presse quotidienne régionale,
oui.
où j'ai fait 12 ou une petite quinzaine d'années de carrière.
Ok.
Et à ce moment-là, je me suis retrouvé, grosso modo, sans emploi. Hein. Ça,
ouais.
ça faisait 12 ans que je travaillais sans discontinuer. Mmh. Et j'ai toujours été passionné par le potager depuis très jeune. Hein. Mon premier potager, c'était à 14 ans. Donc,
ah oui, d'accord. Ouais.
Okay. Donc voilà, j'en ai 43 aujourd'hui. Donc j'ai
ça
jamais,
fait quelques années
j'ai
de jardinage
jamais, j'ai jamais arrêté. Ouais, ça fait quelques années de jardinage dans différents contextes, dans différents lieux, à différentes altitudes et sous différents climats.
Okay.
Et voilà, du coup, j'ai toujours aimé ça. Et à un moment donné, je suis parti, comme beaucoup le font, faire 2 semaines de formation en permaculture.
Ouais. Mmh.
Et bon, là, il y a eu une rupture, hein, enfin plutôt une rupture, plutôt quelque chose qui s'est pas quelque chose qui s'est brisé, mais quelque chose qui s'est plutôt construit.
Et donc, est-ce que tu peux peut-être juste, excuse-moi de te couper, mais nous préciser peut-être la permaculture pour ceux qui nous écoutent, qui savent pas exactement ce que c'est. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous expliquer les principes de la permaculture?
Alors, le principe de base. La permaculture, si on devait le définir de manière la plus simple possible, c'est la mise en place, le design, la conception
oui.
de systèmes autonomes et résilients inspirés par le modèle de la nature.
Ok.
Cette définition très conceptuelle est née une méthode de culture, une méthode de jardinage, une méthode agricole. Initialement, à la fin des années 70, les concepteurs de la permaculture voulaient créer une nouvelle manière de concevoir les espaces agricoles.
D'accord.
Voilà. De là est née la permaculture, mais elle a rapidement... On trouve encore dans le Larousse hein, français... définition de permaculture, méthode agricole, tatati tatata.
Bon, d'accord.
Voilà. Le Larousse, c'est pas forcément une bonne référence.
Pas
aujourd'hui,
en tout,
en tout cas pas là-dessus, mais du coup, la permaculture est assez vite sortie du champ purement agronomique.
Oui.
Même si 95% des gens à qui tu poses la question c'est quoi la permaculture, ils
oui.
te parlent d'association de plantes, de buts de culture ou de trucs comme ça.
Bon. Oui.
Oui, c'est ça.
Oui.
Mais c'est pas que ça.
Ouais, d'accord. C'est ce que j'allais dire, c'est quand même la base de la permaculture.
Exactement,
c'est
la base.
D'accord.
Mais assez vite, ils ont les concepteurs de la permaculture, notamment David Holmgren, lui a commencé, après avoir testé ça dans son jardin,
ouais.
a commencé à se dire, mais attends, en fait, je vis une expérience, j'expérimente une nouvelle façon de vivre, j'expérimente
ouais.
un mode de pensée.
Ouais.
Ce mode de pensée, il serait extrêmement réducteur ouais. de le cantonner à mon jardin ou à ma communauté.
D'accord. À la rotation des plantes, etc.
Ouais. Okay. Donc après, c'est assez rapidement parti sur l'esprit communautaire.
Ouais.
Donc de créer des petites unités de vie avec un maximum d'autonomie, des personnes qui vivent ensemble,
ouais.
qui éco-construisent leurs bâtiments. Parce qu'on parle aussi, du coup, indépendant. On arrive sur les notions de low-tech, sur les notions
oui.
d'éco-construction. Mmh. On est toujours sur le mode de vie, le mode d'agriculture, quelle nourriture on mange, quelle
oui.
eau on boit aussi. Enfin voilà, comment est-ce qu'on gère les éléments naturels dans un système. Et voilà. Et puis à un moment donné, dans les années 90, bah, une fois qu'on avait un peu réalisé ça, David Holmgren, il a dit, bah, on peut élargir encore. Hein. Donc il a designé. Donc quand je parle de design, je l'entends au sens plutôt anglais, c'est-à-dire de conception.
De conception, ouais,
voilà. Pas du tout d'objet designé.
Oui, c'est pas des objets designés.
C'est de designer. Okay. Voilà, c'est plutôt conception.
Conception.
Ouais. Conception. Et du coup, il s'est dit, bah, on peut concevoir, on peut élargir ce champ-là.
Ok.
Voilà. Mmh. On va l'élargir. Puisque finalement, la base théorique, elle est applicable dans plein de trucs.
Ouais,
donc, je vous rappelle, pour compléter la définition que j'ai donnée, il y a trois éthiques en permaculture.
D'accord.
C'est hyper basique. Prendre soin des hommes.
D'accord.
Prendre soin de la nature, de la terre.
De la terre, oui.
Limiter son expansion et repartager les surplus. Enfin, c'est pas exactement ça le terme, mais voilà. C'est à peu près ça. L'idée, c'est de dire.
C'est trois piliers.
On va pas se limiter dans son expansion, parce que, à un moment donné, si on s'étend trop, on arrive toujours vers des problématiques.
D'accord, ok.
Voilà.
Donc, la place des autres, ou c'est pas forcément ça
ça peut être tout. Ça peut être un champ de blé, ben, c'est très bien.
Oui.
Sauf qu'un champ de blé de 150 hectares, c'est pas bien.
Ouais, d'accord.
C'est aussi simple que ça. Voilà.
Ouais, mais c'est pas bien. Pourquoi
c'est pas bien?
C'est pas bien parce que c'est pas utile.
C'est une monoculture. On est sur une conception de l'agriculture qui est tout autre.
Ouais, d'accord.
En fait, on est plus dans le même champ. On est plus dans le. Voilà. On va privilégier une plante par rapport à des centaines de milliers d'autres possibles. Et puis,
donc on limite la diversité.
Exactement.
D'accord. Voilà. Ok.
Bon. Sur ce, il a designé cette petite fleur de permaculture qui est toute simple. Hein. Il y a au centre de la fleur, hein, si on schématise un peu les éthiques de permaculture et puis les principes de conception, mais là je ne vais pas en parler parce que ça complexifie un peu le propos.
D'accord.
Puis après, il y a des pétales. Et
okay.
Les pétales, c'est une fleur basique. Hein.
Ouais.
Les pétales, c'est des grands domaines de la vie. Des grands domaines.
C'est clairement plus qu'une technique de jardinage, pour caricaturer justement, on est d'accord, c'est carrément une philosophie de vie.
Ouais, tu vas voir où je veux en venir, en fait. Donc chaque pétale, tu as un grand domaine. Donc tu as le pétale pédagogie, le pétale organisation, qui t'aide à gérer tes relations sociales notamment. Tu as le pétale éco-construction, tu as un pétale qui est plus en lien avec la nature, où on retrouve l'agriculture, mais aussi plein d'autres choses.
D'accord.
Et tu as un pétale qui s'appelle économie et finance.
D'accord, ok.
Voilà.
D'accord.
Et du coup, voilà, c'est ce pétale, puisque bon, j'ai pas de leçon à donner sur l'éco-conception des bâtiments et la permaculture en plein champ ou en maraîchage. Mmh. Et par contre, je pense qu'il y a un pétale sur lequel on a plein de choses à faire et plein de choses à créer.
Ouais.
C'est le pétale économie et finance. Et pour être très sincère, une des premières personnes à avoir parlé de ça s'appelle Emmanuel Delannoy. Il a édité un bouquin qui s'appelle Permaéconomie.
Oui, d'accord.
Permaéconomie, ça a été édité en 2016.
Donc c'est relativement récent.
Voilà. Les autres bouquins que je connais qui parlent du sujet, il y en a une dizaine.
Oui, d'accord.
Okay. La plupart datent d'après 2020.
Ok, donc ouais, d'accord. On est vraiment sur une nouvelle économie.
Ouais, ou
une nouvelle vision de l'économie.
Une vision de l'économie qui peut être complémentaire avec d'autres visions d'ailleurs, hein, puisque c'est pas une fin en soi, mais on est là-dessus. Et donc,
on va reparler juste. Ouais. J'aimerais creuser justement ce pétale de l'économie, de la finance permaculturelle, si on peut dire. Mais déjà, ce que je trouve intéressant par rapport à la conception que j'avais en tout cas de la permaculture, pour moi sincèrement, c'était le jardinage. Hein.
Mm.
C'était mon carré potager dans mon jardin avec. J'ai acheté un bouquin sur la permaculture, très intéressant d'ailleurs. En termes de jardinage, déjà, c'est quand même. Je trouve que les concepts sont très, très intéressants. Et c'est d'ailleurs assez étonnant, je trouve, quand tu t'intéresses à la permaculture, de voir que ça reste quelque chose qui est finalement assez confidentiel, qui est niche, alors que ça semble être quelque chose d'extrêmement puissant. Enfin, c'est quelque chose qui me surprend, en tout cas, de mon point de vue. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que dans cette fameuse fleur avec ses pétales, en fait, l'agriculture, c'est un seul pétale sur la fleur.
C'est une partie d'un pétale.
C'est une partie. Ah oui, c'est même une partie d'un pétale, d'accord. Ok. Donc la vision qu'on a souvent de la permaculture, j'allais presque dire de la perma-agriculture, c'est pas la vraie vision des choses.
C'est ni vrai ni faux en fait. Pour simplifier, je dirais que la permaculture, et tu l'as dit toi-même assez bien, puisque J'essaie de t'amener là-dessus, c'est une philosophie de vie, oui, c'est d'accord. un mode de pensée.
Ouais. Ouais, d'accord.
C'est une façon de concevoir l'existence et notre être au monde, et notre être aux autres. Et du coup, une fois que tu as atteint cette façon de vivre et d'envisager l'existence, bah, tu peux l'appliquer partout.
Ouais.
Voilà. Ouais. Et du coup, aussi bien tu peux l'appliquer à ton potager.
Oui.
Et du coup, en découle une boîte à outils, des méthodes, des techniques particulières.
Ouais.
Aussi bien tu peux l'appliquer à ton entreprise avec les outils propres à l'entreprise, à l'entrepreneuriat et les techniques particulières.
Et en te basant sur les trois piliers dont tu parlais.
Exactement.
C'est ça l'idée. Et donc, dans la perma-économie, justement, comment on peut la définir ? Par ces trois piliers ou il y a d'autres éléments pour bien comprendre la perma-économie ?
Bah, chacun, il y a des gens qui ont des approches différentes. Moi, voilà, la mienne est en train de se constituer, on va dire. Parce que ce que j'expérimente au niveau du coworking ici, aujourd'hui, je commence à ça me sert de socle pour une future théorisation de ce que je suis en train de faire.
C'est un laboratoire d'expérience quelque part.
Exactement. Et du coup, ça a commencé déjà à aboutir à des choses. Donc, j'ai créé en partenariat avec l'association Mush. En septembre 2023, on a organisé les premières rencontres de la perma-économie en France. Donc, ici même, on a accueilli une centaine de personnes qui, certains venaient parfois de toute la France.
Donc, c'était pas un événement trop confidentiel non plus, il y a quand même du monde qui
s'est passé. On était une centaine, bon, c'est pas énorme, mais c'était déjà pas mal. Et puis, ça a permis de fédérer aussi, d'échanger, de connecter des gens qui parlaient un peu le même langage, parfois avec des concepts différents. Il y en a qui parlent d'entreprises fertiles, il y en a qui parlent d'entreprises régénératives, il y en a, il y a tout un tas de mouvements en fait qui vont tous un peu dans le même sens, mais qui utilisent, sont originaires de différents mouvements de pensée, et puis au final on dit la même chose. Donc, voilà, on se regroupe.
Est-ce qu'il y a des liens aussi avec l'entreprise libérée, ce type de conception-là?
L'entreprise libérée, il y a tout un tas de trucs. Tu peux aller sur le B Corp. Alors, je ne parlerai pas de RSE j'ai coutume de dire que la RSE, c'est uriner sur l'incendie que tu as allumé. Nous, on va ne pas allumer l'incendie.
Voilà, c'est une conception différente.
Ça résume assez bien le truc. Et pour revenir à ton idée de tout à l'heure, moi j'utilise beaucoup les trois éthiques. Parce que pour moi c'est la façon la plus accessible de faire ça. Tu vas voir là où je vais en venir, c'est que en fait après les rencontres de la perma-économie, on m'a demandé de créer un premier cours sur la perma-économie que j'ai enseigné depuis. C'est un cycle assez court, mais j'ai enseigné dans une école qui s'appelle l'ESI, qui fait du business et développement durable, qui est à Lyon Confluence. Et du coup, dans mon cours, je vais répondre à ta question, j'ai un exercice, je leur explique ce que c'est que la permaculture, un peu comme j'ai fait avec tout ce que je t'ai expliqué, la fleur, tout ça. Et je leur ai dit, maintenant on prend... j'ai des exemples, donc j'ai le salon de coiffure, le bistrot, le média, et j'ai l'atelier de mécanique. On va créer, chacun choisit un truc, une activité sur laquelle il veut réfléchir, imaginer un salon de coiffure permaculturel, un atelier de mécanique permaculturel, imaginer un média permaculturel, donc avec des actions en faveur du bien-être, du soin à l'homme, des actions et des engagements en faveur du bien-être et du soin à l'environnement, et comment est-ce qu'on repartage, comment est-ce qu'on partage, comment est-ce qu'on contribue à promouvoir notre média et nos idées pour influencer les gens, pour qu'ils aillent dans le sens d'une... vision plus permaculturelle de la société.
Et le repartage, c'est ça aussi que tu disais, repartage des surplus.
Le repartage des surplus, on peut l'entendre dans plein de façons différentes. Ça peut être dans la vision agronomique, je cultive des pommes de terre, j'en ai 300 kilos, ma famille, j'en ai besoin que de 150 kilos, je vais donner les 100 kilos à des gens, ou les échanger, ou les troquer, ou faire des échanges de services avec ces pommes de terre. Enfin, on peut tout imaginer sur une économie un peu parallèle et avec une autre façon de voir l'économie aussi. Le troc, par exemple. Le troc, c'est génial. Moi, j'adore le troc. Mais bon.
Et puis, moi, je pensais au salon de coiffure. Tu donnais cet exemple à tes étudiants. Ouais. Imaginez un salon de coiffure. Donc, j'imaginais tout de suite, tu vois, la récupération des cheveux pour les perruques ou autres. Exactement. Des choses comme ça, toutes simples.
Et ce qui est marrant, c'est que aujourd'hui, on est. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Rob Hopkins, que tu connais peut-être, qui en parle aussi. On est un peu, alors je dirais pas faillite parce que c'est pas le bon terme, mais je pense pas que ce soit le terme qu'il emploie, mais on a moins d'imagination que par le passé, a priori, oui. Semble-t-il, mm-hmm. Et il a des études scientifiques sur lesquelles il s'appuie. Notre capacité d'imagination est moins sollicitée, du coup elle est moins entraînée, et du coup on a un peu plus de mal à
imaginer une nouvelle solution.
Et du coup, souvent, les élèves, ça les déstabilise un peu quand on leur dit, allez, imaginez.
Oui, tout à fait. Un salon de coiffure permaculturel.
Ce que vous voulez, on s'en fiche. Et du coup, ils imaginent des choses alors, qui parfois sont très, entre guillemets, consensuelles, mais qui parfois sont assez disruptives.
Oui, d'accord.
Enfin, ça les challenge dans leur
manière de voir
leur
aussi vision les choses, de voir
les possibilités. Ouais. Des fois, les freins qu'eux-mêmes se mettent, ou que la société leur met, je sais pas, c'est un autre débat, mais des fois ils se rangent eux-mêmes, ils se mettent des murs, tu vois, en face d'eux, pas possible, c'est trop compliqué, mais non, c'est pas possible de faire ça, mais si, c'est possible.
T'as un exemple de quelque chose, tu disais, de disruptif, par exemple, d'une idée qui est venue des étudiants, qui t'a même toi étonné?
Non, parce que j'ai imaginé déjà pas mal de trucs dans le. Non, mais. Alors, je dirais pas que pour mes étudiants, non, parce que c'est peut-être on fait ça dans une situation de cours assez limitée dans le temps. Mais moi, je suis toujours étonné, ne serait-ce qu'à Lyon, puisque c'est un écosystème qui m'intéresse, sur une ville, entre guillemets, petite comme Lyon, l'inventivité entrepreneuriale des entrepreneurs engagés, notamment. Il y a des choses qui sont particulièrement étonnantes.
Et puis, je pense que ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que, quelque part, tu as des entreprises qui se créent vraiment déjà sur ces principes-là, sans forcément y penser, mais qui se créent là-dessus. Et après, n'importe quelle entreprise peut à un moment donné se poser et se dire, tiens, moi, par rapport à ces trois principes-là, qu'est-ce que je peux modifier?
Exactement.
Qu'est-ce que je peux changer? Et je pense même à des indépendants. Bon, moi, je le suis, puis j'en croise beaucoup au quotidien. Même des indépendants peuvent se poser des questions, ces questions-là, de leur activité. Comment je peux avoir une activité qui est plus en lien avec les préceptes de la permaculture.
Et on m'a posé la question assez récemment, on m'a dit, ouais, mais alors ton truc-là, il faut l'appliquer dès la création de l'entreprise.
Ouais.
Bah non.
Ouais, pas forcément.
Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est toujours mieux. C'est comme quand tu commences un potager. Mais je reviens...
On revient quand même au potager.
On revient à la terre. Au potager, parce que
c'est quand même la base.
Mais les parallèles se font toujours... Ouais. Préparer le terrain pour avoir des bonnes récoltes. Tu vois, enfin, il y a toujours un truc.
Il y a toujours un lien.
Alors, c'est toujours idéal, par exemple, quand on commence un potager, de le commencer avec les bons principes, en aménageant la permaculture, dit qu'il faut observer avant d'agir, des choses comme ça. Il y a tout un tas de principes de conception. Vraiment designer son sol, voir les vents, où trouver l'eau, comment récupérer l'eau, où placer les choses.
Ouais.
Tout ça, ça aide.
Idéalement.
Et ça permet. Une fois qu'on met tout ça en place, généralement, ça fonctionne bien.
Oui.
Ça devient autonome, résilient. Et du coup, on a un système productif, autonome, résilient. Enfin, tout ce qu'on cherche. C'est pareil pour une entreprise. Changer ta façon de voir l'entrepreneuriat et l'entreprise, et plus ça va créer, de générer de nouvelles choses, plus tu vas aller loin dans la démarche.
Ouais.
Et c'est exactement pareil en permaculture, ou d'ailleurs dans une vie où tu transitionnes.
Oui.
C'est-à-dire qu'au début, tu vas acheter un peu de bio, après tu vas acheter beaucoup de bio, puis après, à un moment donné, tu vas fabriquer tes propres produits, tu vas fabriquer ta lessive, puis à la fin, tu vas fabriquer tes produits d'entretien, tu vas fabriquer tes produits cosmétiques, tu vas plus consommer.
Il
ne faut pas dire ça en ce moment.
J'ai vu que la pub de l'ADEME a été censurée. Alors du coup, depuis qu'elle a été censurée, cette pub,
elle cartonne.
Si vous écoutez le podcast au moment où il sort, donc ce sera en décembre 2023, je fais juste un petit aparté, il y a cette pub de l'ADEME qui met en scène des dévendeurs qui conseillent donc aux clients de ne pas acheter les produits. Et du coup, j'arrête pas de voir cette publicité sur les réseaux sociaux depuis qu'elle a été interdite. Mais d'ailleurs, elle n'a pas été interdite. elle devait être interdite et finalement, elle est autorisée à passer. C'est ce que j'ai vu très récemment. Et du coup, je crois que ça représente moins de 1% des publicités actuelles. Donc on a 99% des pubs pour consommer et je crois 0,2% pour ne pas consommer. Donc,
C'est dommage parce que c'est une pub très bien, en tout cas.
En plus, elle est super bien faite.
Elle est super bien faite.
Elle est super bien faite, très drôle.
Très intelligent.
Ouais.
Bon, voilà. Mais voilà, du coup, on va dans une démarche de transition. Allez, moi, j'aime pas la théorie des petits pas, mais petit pas par petit pas, mais jusqu'au moment donné où, en fait, on s'aperçoit qu'on a changé profondément.
Et qu'il reste une démarche, ce que je trouve intéressant, très concrète. C'est-à-dire, les préceptes peuvent paraître un peu théoriques quand on les énonce, tu sais, les principes de la permaculture. Mais quand tu adaptes ça à une entreprise, je pense aux exemples que tu donnes à tes étudiants. Imaginez un salon de coiffure, imaginez un mécanicien ou un garage, je ne sais plus ce que tu disais. Là, on rentre vraiment dans le concret de ce qu'on peut faire. Et à la base, c'est quand même quelque chose de très concret, la permaculture. C'est la terre, c'est faire pousser des aliments, enfin des légumes dans un premier temps. Mais il y a quand même quelque chose de très concret à la base, en tout cas là-dedans. Ce n'est pas une théorie trop abstraite.
Non. Je livre un peu mes secrets de fabrication, mais une fois que je leur ai fait créer leur propre entreprise, je leur donne un deuxième exercice, dans un deuxième temps.
Okay.
Je leur dis, vous habitez tous vous travaillez tous dans la même rue.
D'accord.
Et du coup, vous allez devoir faire des projets participatifs. Comment est-ce que vous allez pouvoir travailler avec... Alors donc, chacun a choisi sa propre entreprise, donc c'est un autre exercice où je leur fais qu'est-ce que tu aimerais faire, et vas-y, fais-le de manière permaculturelle. Et après, je leur dis, tu habites le même quartier, la même rue. Donc, comment est-ce que tu interagis? Je le mets dans des petits groupes, je dis, avec l'entreprise A, quelle relation de partenariat on peut engager avec l'entreprise B? Alors, des fois, il y a des trucs, faut se creuser la tête.
Là, faut se creuser la tête.
L'entreprise B, avec l'entreprise C, et créer un événement collectif ensemble. Il y a moyen de faire des trucs ensemble.
Ouais.
Et même si on n'a pas forcément le même... si on partage les mêmes convictions, en fait, on peut facilement trouver des choses à faire en commun.
Oui, complètement.
Mais encore faut-il partager les mêmes convictions.
Il faut partager les mêmes convictions. Et en tout cas, je pense aux étudiants aussi. Si on a des étudiants qui nous écoutent et qui auront ton cours bientôt, ils savent du coup les questions à préparer pour le prochain cours avec Vincent. Cet épisode est terminé, en tout cas la première partie de cette interview, puisque comme je vous le disais en introduction, la deuxième partie de l'interview, qui sera consacrée au parcours de Vincent Patrin, sortira en début de semaine prochaine. Sachez également que si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, donc on est début décembre 2023, et bien ce week-end, Vincent intervient également dans l'émission Silence, ça pousse, qui est diffusée sur France 5, et je crois qu'il intervient quasiment sur la totalité de l'émission. Donc voilà, à regarder en tout cas ce week-end entre les deux épisodes du podcast Nouvelle Voix. Si le podcast vous plaît de manière générale, eh bien, je vous invite à le noter, à le commenter, c'est ce qui m'aide à le faire connaître. C'est possible sur des plateformes comme Apple Podcast, où on peut noter, commenter, sur Spotify, où on peut noter, et même sur d'autres plateformes comme Deezer, on peut simplement mettre un petit cœur, mais c'est déjà beaucoup, ça me permet de faire connaître le podcast. Merci pour votre écoute, et à la semaine prochaine pour la suite de l'interview.